Bonjour chers auditeurs, c'est aujourd'hui une émission qui s'appelle « Si vous voulez me prêter vos oreilles ». Et animée par Jasmine et Stéphane à la technique. Dictionnaire amoureux de Venise par Philippe Solers. Aujourd'hui, on va voyager, je l'espère, pour la grande, petite, jolie, belle beauté. Éloge. Éloge de Venise, de Luigi Grotto Cieco d'Adria, prononcé pour la consécration du doge Serenissime de Venise, Luigi Mocenigo, le 23 août 1570. Voici la ville qui, à tous, inspire la stupeur. Et j'ajouterai que toutes les vertus en Italie dispersées, en fuyant la fureur des barbares, ici se rassemblèrent, et ayant reçu le ciel, le privilège des Alcyons, firent sur ces eaux de cette cité leur nid. Et je conclurai ainsi. Qui ne la loue est indigne de sa langue. Qui ne la contemple est indigne de la lumière. Qui ne l'admire est indigne de l'esprit. Qui ne l'honore est indigne de l'honneur. Qui ne l'a vue ne croit point ce qu'on lui en dit. Et qui la voit croit à peine ce qu'il voit. Qui entend sa gloire n'a de cesse de la voir. Et qui la voit n'a de cesse de la revoir. Qui la voit une fois s'en énamoure pour la vie et ne la quitte jamais plus. Ou s'il la quitte, c'est pour bientôt la retrouver, et s'il ne la retrouve, il se désole de ne point la revoir, de ce désir d'y retourner qui pèse sur tous ceux qui la quittèrent. Elle prit le nom de Venezia, comme pour dire à ceux qui la quittent, dans une douce prière, Veni etiam, reviens encore. Academia. Venise est un trésor, c'est entendu. Mais il y a 1000 trésors dans ce trésor, à commencer par le plus riche d'entre eux, l'Académie. Vous pouvez dire que c'est un musée puisque c'en est un, mais pour moi, c'est un coffre, une église parallèle, une basilique païenne, un grand hôtel particulier pour amateurs passionnés. J'y retourne souvent en rêve. Je sais que je veux revoir ce tableau-là vite, et puis celui-là, et puis encore celui-là, et n'oublions pas celui-là. Je vais droit ainsi à la tempête de Giorgione, sans doute le tableau le plus mystérieux des siècles. Je veux vivre et respirer en lui. Je le comprendrai plus tard. Un guide vous dira, la nature exaltée et le rapport harmonieux et poétique que l'homme entretient avec elle sont les véritables sujets de la toile. Vous voilà bien avancé. Il vous est sans doute utile de savoir que Giorgione, dont on ne sait pas grand-chose, est né vers 1448 à Castelfranco Veneto et qu'il est mort de la peste à 32 ans à Venise, qu'il a mis au point une technique permettant d'obtenir des glacis d'une luminosité inédite, créant un effet de transparence atmosphérique. Que l'humanisme enfin lui inspire ses thèmes, vous voilà toujours dans le brouillard. Laissez passer les touristes, restez simplement là, devant. Taisez-vous, oubliez tout. Le tableau a lieu maintenant pour vous seul. Il vous parle du temps par-dessus le temps, comme toute la ville. Le Sérénissime le fait constamment, c'est sa vocation, sa grandeur, son calme. J'écoute, je commence à voir. À droite, une femme aux trois quarts nue, un boléro blanc sur les épaules, assise sur un drap froissé en pleine nature, allait un enfant avec son sein gauche. On ne voit pas le droit. Elle vous regarde. Elle en a vu d'autres, elle en verra d'autres. Vous êtes obligé d'être cet enfant. La femme est très belle, jeune, éternelle, cheveux blonds vénitiens, rassemblée sur elle-même, malgré ses cuisses écartées, très attentive, protectrice un peu inquiète. À gauche, sur une autre scène, séparée de la femme à l'enfant, par une rivière en ravin, un homme, désinvolte et jeune, veste rouge, tenant un bâton plus grand que lui, tourne la tête vers le petit théâtre d'allaitement. Est-ce un père? Un fils? Un passant? Il a l'air très content, détaché. Il pose. Il se souvient aussi. Ce bébé, c'était lui dans une autre vie. Ou bien ce sera lui, et puis lui encore. Séparation des sexes, destin différent, naissance d'un côté, virilité de l'autre. La culotte du jeune homme rouge ne dissimule pas une proéminence lovée. Le bâton la souligne. Il sourit, il va voyager, mais toujours emportant avec lui ce souvenir d'enfance. Derrière lui, posé comme une sculpture énigmatique, sur un cube de mur, deux colonnes brisées, une tombe, sans doute. Le sens alors pourrait être « le personnage masculin est né, il est mort, il est de nouveau vivant, il poursuit son chemin ». Mœurs et devient. Où cela a-t-il lieu? Aux environs d'une ville que l'on voit se dresser dans le fond, au-delà d'un petit pont de bois qui fait communiquer les deux rives. Une ville sous l'orage, dans un ciel gris-bleu. Un éclair déchire le fond de la toile et accentue la brisure entre la femme et l'enfant et l'homme contemplatif. Sur terre, une rivière les sépare. Ils ne sont pas dans la même rance comme rentrée. Voyez l'éclair, vous ne l'entendez pas encore, font apparaître le spectre des palais et des tours. Au premier plan, les humains mortels. Dans les coulisses, Dieu ou les dieux. Destin, hasard, saison, nature. L'éclair est un serpent qui révèle les éternités différentes de la femme et de l'homme. Vous ne le savez pas au point où le tableau le dit. Mais regardez à présent de plus près cette très légère touche blanche posée sur un toit diagonal, là-bas couvrant une terrasse comme il y en a tant à Venise. Un oiseau? Une mouette? Un goéland? Non. Un héron tourné vers l'éclair et semblant lui claironner quelque chose. Coup de tonnerre dans un silence massif. Cri d'oiseau. L'entendez-vous au loin, par-delà les arbres et l'orage? L'éclair ne fait pas peur à l'oiseau. Il lui répond, ça l'excite. Ce tableau plein d'une sérénité mystérieuse est menacé par une rafale à venir. Il s'appelle la tempête, mais il s'agit d'une étrange tempête, à l'écart, à l'étouffer. Quant au héron, le musicien et libertin Giorgione s'amuse, puisque c'est là un symbole ancien de l'activité sexuelle frénétique. Croyez-en ce quatrain anonyme du XVIe siècle. Il est si très luxurieux et plein d'affection charnelle que quand il couvre sa femelle, le sang lui distille les yeux. Traversez un jour dans l'après-midi un bois où nichent les hérons près de la mer ou de l'océan et vous entendrez comme ça chauffe. Là-bas, en ville, la luxure est à son comble, comme à Venise, par tous les temps. Giorgione sait de quoi il parle. Mais ici, ordre et beauté, silence. Une fois de plus, avec émerveillement et stupeur, la tempête de Giorgione. Ce tableau est une étoile, un aimant. Je le vois d'ici à Paris, par-delà le bruit et la fureur de l'histoire. Il fait le vide, il est évident. Il est d'un temps nouveau, le plus que présent permanent. J'aimerais le voler, le garder pour moi, dormir près de lui, être à le seul à le voir matin et soir. Je voudrais survivre en lui, me dissoudre en lui, haute magie, alchimie. Je devine le passage secret qui l'a rendu possible. Thank you. San Agnese. La place San Agnese est celle que j'aime. J'y suis restée assis des heures et des heures, le matin très tôt, la nuit. Visiteurs et visiteuses du futur, n'ayez le cœur contre moi endurci. Il y a les platanes, les bancs, le puits. Les enfants et leurs ballons, les tunnels-fenêtres, laissent filtrer le soleil sur l'eau de la Giudecca. Des paquebots passent, qu'on ne voit jamais en entier. Ville mouvante. Les cloches de l'église de Giuseppe sonnent. J'attends les 9 coups du soir, avant de rentrer écrire jusqu'à vers minuit. Un grand soutien des quais et de la place m'enveloppe. Les femmes ferment leurs volets. 2 ou 3 habitants se glissent chez eux, entre 2 chiens, puis rien. De temps en temps, l'église reste éclairée. Il y a musique, mais le plus souvent, tout se tait. Algues. La vie végétale prolifère sous la ville. On l'aperçoit à découvert contre les pieux, les piquets, au bord des escaliers de pierre présents sur les quais. C'est ce grouillement pourrissant, mais très actif, qui, angoissant Sartre à Venise, ville pour lui trop maternelle, glauque, dangereuse, empoisonnée dans ses profondeurs. Il préférait Rome, pas moi. J'ai passé des heures à regarder et à écouter le clapotis de l'eau, couvrant et découvrant la végétation marine, monde cellulaire, et fuyant, annonçant celui des poissons. La ville entière plane sur un cimetière de décomposition et de brassage verdâtre qui ne peut pas ne pas évoquer des milliers de coques, de navires ruinés et coulés. Toute la surface n'en ressort que plus propre et plus nette. Peu de terre, des jardins improbables, les pavements, les ponts, les palais. Pour dîner, juste une friture de poisson et vin frais. Altana. L'Altana est une terrasse en bois installée sur les toits. De nombreuses maisons ou palais en sont coiffées comme d'une barque dressée au-dessus de l'architecture. Dans la tempête de Giorgione, le héron blanc est posé là, signe de dégagement voluptueux vers le ciel. Ces terrasses permettent de s'aérer s'il fait trop chaud, de se rafraîchir, de déjeuner ou de dîner dehors en surplomb des murs. On marche dans les rues la nuit, on lève la tête, on devine des lanternes, on entend des voix. Ce sont des îles au-dessus de la ville, qui est elle-même une île. Petits arbres, plantes vertes, fleurs. En bateau, donc, sur les toits de Venise, je sais celle que je préfère quand je pense à toi. Une fille assez souvent jouait là du violon. Une jolie rousse en soie, très énergique et douce. Le bois, l'archer, les cordes, les épaules, les bras, les doigts. Venise est une grande salle de musique. En contrebas, frottement des barques, les unes contre les autres, crissement des amarres, et l'eau sonne toujours l'eau, vaguement agitée, nocturne. Sonate de Bach sur l'Altana. Cecilia Bartoli. Tout à coup, elle a été là, l'incroyable chanteuse, cascadeuse, joyeuse. D'où est-elle venue? De Rome où elle est née, de ses parents musiciens? Mais non, de Venise, de l'esprit inlassable et enflammé de Venise, autrement dit d'Antonio Vivaldi. Il a suffi qu'elle s'empare rythmiquement et vocalement de cette musique pour que celle-ci se mette à vivre, comme jamais, à revivre, à supervivre, à travers les syllabes et sa gorge. Nous sommes dans le superbe et imposant Teatro Olimpico de Vincennes, Palladio, en juin 98. Cecilia, dans sa belle robe rouge, s'avance devant les musiciens. Elle tape un peu du pied, elle les lance. Elle chante un extrait de Griselda, texte d'Aspolo Zeno, adopté par Goldoni. Je le donne aussi en français, mais il faut l'écouter en italien. Agitée par deux vents, l'onde frémit sur la mer troublée, et le marin, épouvanté, se voit déjà faire naufrage. Ce cœur combattu par le devoir et par l'amour ne résiste plus et semble céder et commence à désespérer. Tempête donc, désespoir ? Ce n'est pas ce qu'on va entendre. Attendez, Cécilia sur le mot naufragar, elle le module avec une joie sauvage. Elle est ravie de sombrer, l'amour triomphe du devoir. Dolore amore, naufragar. Elle n'a jamais fait mieux, elle ne fera jamais mieux. Vitesse et virtuosité confondantes, éclair, coup de vent, tornade, percussion, roucoulade, cela s'appelle à l'époque de Vivaldi et de Handel, tordre la voix de légèreté. Elle a voulu chanter dans ce théâtre, elle a minutieusement préparé son attentat. Ça passe, ça ne casse pas, c'est inouï de torsade. Le public est électrisé. Un ange révolutionnaire vient de vibrer. Cécilia est une grande musicienne, érudite, et une grande comédienne. Il faut la voir de près en concert. Tête plus ou moins penchée, cou, poitrine, buste, cuisse, mains, chevilles, mimique. Tout son corps est un instrument de souffle. Elle peut être furieuse, idyllique, pseudo-naïve, sentimentale, drôle, sadique, tendre, rêveuse, enfantine. Elle a fait le tour des mille détours. Elle prend les mots à la racine, divin italien. Elle les étire et les broie, elle les catapulte, les caresse et les fouette. Vivaldi est un dieu incessant des températures, des heures, des saisons, des situations. Un dieu marin, tantôt en tourbillon, tantôt en lévitation. Il possède sa cantatrice, elle le possède. Une telle aptitude à la volupté aboutit, abolit chirurgicalement des tonnes de musique romantique inutile. Bartoli est une sorcière, une fée, une débauchée, une fille du peuple sensuelle et gaie, une artiste incroyable, une merveilleuse femme de la vie courante, une camarade, une aristocrate, une reine. Elle descend de tous les tableaux vénitiens. Vénus sainte, elle est là à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Toute l'actualité paraît lui donner tort, et c'est pour cela qu'elle a raison. Vous avez parié sur l'engloutissement de Venise, sur le naufrage de sa civilisation ? Perdu. Rien n'attend des sociétés. Venise ressuscite chaque fois que quelqu'un respire. Une femme, et quelle femme ? Vous le dites tout net. Réécoutez, agitata dai duvanti. Et encore, regardez l'enregistrement public. Et encore, demandez-vous ce que signifie dans le temps la générosité de Cécilia sur scène. Sainte Cécile, on le sait, la patronne des musiciens. Ici, une fois encore, Rimbaud, je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Si on écoutait la voix délétère du XIXe siècle, relayée par le tourisme marchand, cinéma, cinéma, Venise serait une salle de musée vouée à la boutiquerie et au carnaval mondial. À part le Lido, la place Saint-Marc et les jardins aménagés annuellement en stands d'art moderne, on se perdrait dans des ruelles obscures, n'ayant pour issue que des places perdues. Venise, une ville de province colonisée par un businessland à gondole. Or, Venise est un port, un grand port, à l'activité incessante. Navettes, vaporetti, motos, scafi, watch, voilier, vedette, péniche, barge, canot, remorqueur, container, très gros paquebot. On peut y vivre constamment sur l'eau et rentrer chez soi jardin et terrasse. Voici par exemple les bateaux que j'ai vus passer devant moi sur la Giudecca dans les dernières années du XXe siècle. Je suis en train d'écrire, je lève la tête, je note les noms. Le 4 juin 99 à 9h50, Yonan Victory, Grèce. Le 5, samedi, est-ce une hallucination? Non. Viking Bordeaux, bleu de Londres. Hélas, bleu et blanc, comme sur la page de Héraclion. Vinosurf, 5 mâts blancs, Oslo. Grand Princesse, Monrovia, Liberia. 8 juin, Dardalus. Bonjour Joyce. Princesse Dana, Monrovia. Yonan Island, Patra. Vœu Azur, Panama. Costa Victoria, Monrovia. Pacifique Princesse, Londres. Sea Goddess, Tou, Londres. Bolero, Panama. Samsun, Istanbul. Vistamar, Panama. Splendor of the Seas, Oslo, véritable ville flottante avec cour de tennis effaçant l'autre rive en passant. Crystal Symphony, Nassau, Bahamas. Star Odessu, Songs of Flower, blanc Oslo. Victoria, Londres, Crystal Harmony, Nassau. La circulation est permanente, l'eau sans cesse froissée. Le trafic de paquebots de croisière, culminant logiquement le samedi matin, arrivée, et le dimanche soir et le lundi matin, départ. Mais il y a de tout. Barques de fruits et primeurs, de linge, de gravats, lourdes péniches alimentant les bateaux en eau potable. Devant moi, Risorta, Liana, Sahel, Gigi. Moteur, bruit de marteau sur les coques et les tôles. Cette suractivité est en nette montée depuis 20 ans. Elle est donc restée inconnue à tous les voyageurs antérieurs. Il y a au moins deux Venises, celle de l'intérieur et des canaux, celle du large maritime qui renoue avec une gloire passée transformée. La deuxième ville a ma préférence, son église et le Redentor. On trouve la trace de Venise dans maint passage du paradis 1 and 2. Notamment une scène d'hallucination avec personnages féminins sur un bateau à voile. J'aime le mot « roof », mais dans « Femmes », 1983, les bateaux, comme des titres de poèmes, n'arrêtent pas de passer devant le narrateur et ses personnages. Norwegian Challenger, Oslo, Royal Eagle, Monrovia, Suavity, Londres, Pacific Arrow, Tokyo, Lucky, Palerme, Palerme, Romanza, Panama, Captain Neidet, Istanbul, Evangelia, Limassol, Jasmina, Haifa, Zimia, Kilekka, Stefin, Corona Austral, Gênes, Visby, Trieste, Ophéus, Athènes. Et j'en oublie, venant d'Odessa, de Shanghai, de Barcelone, de Naples, les bateaux chinois seront de plus en plus fréquents. Et je me souviendrai toujours de celui pavoisé de drapeaux rouges qui est entré ici en 1969, appelant par haut-parleur le prolétariat à se révolter contre les capitalistes et les révolutionnistes du Parti communiste, scène incroyable, très choquante pour les puissantes locales. Marins, chinois au sol, fascinés par les pigeons, des quais éblouis et rieurs, drôles de touristes. Comme je faisais du chinois à l'époque, je leur ai adressé la parole dans leur langue, effet immédiat. Ne pas oublier les remorqueurs, noirs et blancs, sans cesse de gauche à droite, de droite à gauche, avec leur nom latin, écrivant leur Lituanie. Maximus, Novus, Pardus, Geminus, Strenus, Titatinus, Validus, Cetus, Osus, Squalus. Le passage du Pardus, pour moi, signe de chance. Tiens, comme c'est curieux, jamais de bateau français. Les watch sont pour la plupart anglais. Les navettes chargées de voitures ou de camions, renversement des autoroutes, des boulevards, des avenues, des rues, s'appellent Marco Polo, logique, et Amiana. Les carrosseries et les capots brillent sur l'eau. On dirait qu'on va les noyer au large. Dans le cœur absolu, la fête continue. Globe d'Orient, ocre et terre de Sienne, Athènes. Bocotan, orange, manille. Silver Dream, gris et rouge, Sydney. Tipolo, cheminée jaune, à rayures bleues horizontales, étoilée de blanc, Venise. Serenissima, express, kaki et blanc, filet jaune, cheminée noire, rouge et blanche. Jacopo, Tintoretto, même allure que le Tipolo. Et puis un soir amarré près de la gare maritime, Argonautes, blanc, Athènes. La Palma, Limassol. Fédor, chez Lapine, Odessa, Deep South, Singapour, et ainsi de suite. Pourquoi ai-je noté tous ces noms ? Pour saluer le temps, le passant, le non-passant, le présent, la mémoire. Après une rapide scène d'amour avec une Vénitienne brune à peine draguée, Claudia, le narrateur du cœur absolu sort pour dîner seul et note. Personne ne me croira si je dis qu'à ce moment précis, une fois pour toutes, alors que je bois mon premier verre de vin, le Donna Bruna de Gênes, bleu de Prusse, passe. Une exposition avait lieu à l'époque, Venezia e la Difensa del Levante, annoncée avec une reproduction de Titien. Même histoire aujourd'hui sous une autre forme. Un des Mostos Caffi du consulat de France, lieu magique, porte le nom suivant, la Nouvelle Héloïse. Je n'invente rien. Merci chers auditeurs, à vous tous, en espérant vous avoir fait faire un beau voyage à Venise et à bientôt.